suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Vous savez très bien que nous répondons toujours à ce rendez-vous du débat de sur l'actualité et un club de la presse. Et bien sûr, nous sommes aujourd'hui mercredi 26 juin 2024 et il est 11h. Vous comprenez que c'est l'heure de l'émission Club de la presse. Merci de nous choisir pour ce troisième numéro de l'émission pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, bien sûr, mercredi, Michel Kokou Vitok Betomega est à la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Géraud Akoucha. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Et bien sûr, les radios qui nous relayent, bien sûr, à l'intérieur du pays, c'est bien Radio Lumière à Nekor, Radio La Paix à Takpame, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Koktoazia d'Apaon. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde entier grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Le Bénin. L'émission Club de la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat, l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi, journaliste en studio, Gadiel Tonadi, bonjour.
Pascal, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent, auditeurs, auditrices de Canal FM.
Oui, j'espère que tu as bien commencé la journée, tu as bien démarré aussi la semaine.
Ça va bien chez vous?
Ça va aussi, par la grâce de Dieu, ça
merci
va.
Merci le Seigneur.
Voilà, alors Abbas Issaka, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auteurs, autrices qui nous écoutent en ce moment.
C'est toujours bonjour. Commandant.
C'est toujours commandant.
Ça n'a pas changé de grade?
Bon, ça va évoluer peut-être.
Non, ça doit évoluer.
Ça doit évoluer, sinon, bon. On attend, on espère.
D'accord, merci beaucoup. Au passage, nous saluons notre confrère, ami Alphonse Ken. Je pense qu'il est quelque part en train de nous écouter actuellement. Alphonse, bonjour à toi. Nous commençons cette émission avec la santé. Santé, vous savez très bien que nous sommes au mercredi. Mercredi, nous parlons santé. Et Gadiel Tonadi sait bien nous parler, évoquer même d'ailleurs des sujets de santé tels que élaborer ou parler dans le journal Santé Éducation. Alors, votre journal est dans les kiosques ce matin, Gadiel. Vous nous parlez ce matin alors de la rétention d'eau dans l'organisme, bien sûr. Et vous parlez alors d'une recette. Vous dites que il y a le jus de carotte plus gingembre alors qui réduit la rétention d'eau.
Oui, Pascal, vous savez, si vous êtes un cardiaque, vous avez des problèmes cardiaques, vous êtes hypertendu, vous avez le diabète, vous avez un problème au niveau du foie, des problèmes rénaux, vous pouvez faire ce qu'on appelle la rétention d'eau. Donc c'est ce qu'on appelle aussi les œdèmes, c'est-à-dire que vous allez voir la personne avoir des gonflements à certaines parties de l'organisme, notamment au niveau du pied, au niveau des chevilles, tout. Et cela a des causes. Hein, il y a des causes. On parle souvent de la mauvaise circulation du sang. Hein, et puis, il y a aussi des médicaments. Il y a certains médicaments, quand on les prend, cela peut créer de la rétention d'eau. Et là, on ouvre une parenthèse pour dire que tous ceux qui sont sous traitement et que en prenant un médicament, ils constatent que ils ont une rétention d'eau, c'est-à-dire que leur pied s'enfle, qu'ils saisissent rapidement le médecin traitant, parce que en principe, ils ne doivent pas continuer par prendre des médicaments quand ils ont ce genre d'effet. De toutes les façons, ils doivent signaler cela au traitant pour qu'il peut-être change le médicament. Donc ça, c'est très important parce que quand on a la rétention d'eau, c'est qu'il y a une anomalie. Il y a des dysfonctionnements assez profonds au niveau de l'organisme.
C'est un signe alors de dysfonctionnement.
Oui, absolument, un signe de dysfonctionnement au niveau de un ou de plusieurs organes. On vient de parler tantôt de la mauvaise circulation du sang. Donc, quand le sang ne circule pas bien aussi, ça conduit à cela. Et c'est plusieurs autres conséquences, plusieurs autres complications. Donc, ce message va à tous ceux qui sont des malades de ces maladies qu'on a citées, l'hypertension, le diabète, voilà, les problèmes rénaux. Et il faut consulter un médecin hein, pour cela. Maintenant, ceux qui sont actuellement des hypertendus, des diabétiques et tout, qui ne font pas encore des œdèmes ou bien qui ne font pas encore la rétention, cette recette, c'est pour eux. Hein, cette recette, c'est pour eux. Ceux qui font déjà ce genre de phénomène, ça, ils font déjà la rétention, cela peut aussi les aider. Mais comme on l'a dit, il faut d'abord retourner voir le médecin traitant pour avoir une prise en charge assez globale. La recette, c'est l'alimentation qu'on va faire à la maison. Ça aide beaucoup à limiter un certain nombre de dégâts au niveau de l'organisme.
Alors, ce que nous devons comprendre à travers cet article, c'est que quand il y a ce dysfonctionnement, c'est-à-dire déjà on comprend qu'il y a cette rétention alors d'eau dans l'organisme, il y a des signes. Il y a des signes quand même qui démontrent cela et rapidement nous devons aller nous faire consulter.
Oui, surtout quand vous avez fait la rétention d'eau et il y a d'autres signes qui l'accompagnent, notamment la fatigue. Vous sentez très fatigué, vous n'avez pas beaucoup de volonté, vous dormez mal et puis votre tension monte, donc c'est très mauvais. Il faut pas rester à la maison, il faut aller rapidement à l'hôpital et surtout aller vers un centre spécialisé, parce que là vous changez de gamme, votre statut change de gamme, il faut aller dans un centre spécialisé pour qu'on commence des examens pour vous faire une prise en charge assez efficace.
D'accord. Alors c'est vrai que pour ce qui concerne les recettes, vous nous proposez une autre et vous parlez alors de recettes contre l'infertilité féminine.
Oui, parce que vous savez quand on forme des couples en Afrique et dans le monde entier, c'est pour d'abord faire des enfants. Oui. C'est vrai qu'il y a des couples qui ne veulent pas avoir des enfants, ils ont leur raison, mais d'après une étude qui est faite en Afrique, il y a plusieurs couples qui ont des problèmes de procréation, surtout au niveau des femmes. On parle de au-delà de 25% de femmes sur le continent qui ont ce genre de problème. Et très souvent, on sait que on doit un certain nombre de difficultés, un certain nombre de maladies, notamment les problèmes de fibromes, de trompes, d'infections. Donc il y a plusieurs problèmes au niveau d'un certain nombre de femmes qui font que la procréation fait problème. Et puis il y a un autre problème qu'il faut signaler, c'est aussi le fait que leur mari ne soit pas en mesure de les enceinter, si on peut le dire ainsi. Donc ça aussi c'est un facteur d'infertilité chez la femme.
Mais comment on ne peut pas être en mesure alors d'enceinter sa femme?
Ben ça veut dire que l'homme aussi a un problème au niveau des spermes, est-ce que vous voyez, il a un problème, donc l'homme doit se traiter pour pouvoir faire la grossesse à sa femme, si on peut le dire ainsi.
Tout à fait.
Donc il y a une recette que nous avons en tout cas vu travailler avec un spécialiste en matière de médecine alternative, une recette qu'on peut faire à la maison, très très simple, hein. Il faut voir la recette. Pour toutes ces femmes qui savent qu'il y a une raison, on a découvert tout ce qu'on vient de citer, soit c'est des trompes bouchées, soit c'est l'infection, soit c'est question de fibromes, faire cette recette pour voir ce que ça peut donner.
Gadiel, vous nous interpellez également sur la consommation du sucre et vous écrivez « Le sucre nécessaire ou toxique pour l'organisme ?» Vous vous interrogez bien sûr.
Plus de 35 millions de personnes décèdent par an dans le monde pour excès de sucre, pour la consommation excessive de sucre. Le sucre aujourd'hui est devenu odeur et tout le monde aime cette substance qui a un goût agréable. On sait que le sucre a un certain nombre de vertus. Selon certaines études, cela donne de la gaieté. Quand on autour de cette table et qu'on prend de bonnes sucreries avec des biscuits, on est en joie, on cause. On rigole beaucoup, ça crée cela dans l'organisme, mais attention, la consommation excessive du sucre dans nos communautés est une bombe actuellement. Vous vous rappelez, on a dénoncé en temps sur cette antenne certains produits qui sont sur le marché, notamment des boissons sucrées qui sont trop sucrées, hein. Et qui sont gorgés de conservateurs et autres. Donc, ce ne sont pas des boissons de bonne qualité à prendre. Et Et puis, nous avons cette habitude de croire que le sucre, c'est voilà ce qui a le goût agréable qu'on aime. Mais il y a plusieurs aliments dans lesquels on n'a pas ce goût sucré, on n'a pas ce goût agréable, mais qui sont superbement sucrés. Donc, vous voyez, des fois, il y a des gens qui aiment prendre, on ne va pas, c'est pas de la contre publicité, mais qui prennent de l'alcool le soir. Il y a certaines boissons qui ont c'est de l'alcool, mais très gorgé de sucre. Et très souvent, on dit que bon, on va pas prendre de la sucrerie, on pouvait prendre de l'alcool, mais cet alcool est gorgé de sucre. Et si vous continuez, cela peut, vous donner toutes les conséquences que quelqu'un qui prend, chez quelqu'un qui prend du sucre tout le temps.
C'est-à-dire, ça n'a pas un goût, doux, mais finalement, ça regorge assez de sucre.
Absolument. Donc, il y a assez de sucre. Donc, plusieurs aliments sont comme ça. Même notre pâte traditionnelle.
Tout à fait.
La pâte du maïs.
Le riz.
Le riz. Donc, c'est des aliments, quand vous les prenez, est-ce qu'ils sont sucrés? Non. C'est des aliments naturels, c'est vrai. L'organisme va sécréter le sucre dont il a besoin. Donc, le sucre industriel ajouté, il faut qu'on fasse extrêmement attention à sa consommation. Aujourd'hui, il est partout, dans plusieurs aliments, dans du lait. Il y a des laits qui ne sont pas sucrés, mais très sucrés à la base. Donc, c'est une alerte, franchement, c'est un article fouillé, fait avec un expert. Si nous voulons avoir une idée sur l'enjeu de la consommation de sucre, la consommation excessive de sucre qui est cité comme un facteur de plusieurs maladies, lisons cet article. Tout le monde, on invite tous chacun à lire cet article. Chacun va prendre un peu de son, en tout cas un certain nombre de conseils. Et il y a des alertes, il y a des pistes de solutions. On a dit tantôt, mais on avait dit ici qu'il y a des gens qui sont addicts au sucre. Comment faire pour s'en sortir? Donc, c'est assez important.
C'est assez important. Et l'autre question aussi, c'est de savoir quel type alors de sucre consommer. C'est aussi une autre paire de manches, comme on le dit.
C'est vrai qu'il y a des écoles.
Oui.
Sucre blanc, sucre rouge, sucre bleu, je ne sais pas quoi. Tout est sucre. Hein. Tout ce qui sort, tout est sucre et tout est sucré. L'excès est nocif. C'est pas une question de couleur.
D'accord. Vous intéressez aussi à un autre sujet, c'est les thés, hein, ou notre poids de santé, bien sûr. Et notre poids de santé, vous écrivez meilleur thé pour un poids de santé ou un poids santé.
Oui, j'allais dire, parce que nous avons cette culture, cette habitude d'amener tout un chacun à adopter un thé. Le thé, c'est une boisson qui permet de catalyser un certain nombre de choses dans l'organisme. Et très souvent, dans les traditions où il y a, bien dans les civilisations où ils connaissent le thé, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de pathologies qui ne sont pas en promotion dans ces communautés. Chez nous, on ne connaît pas vraiment de thé. Or, on a des herbes. On a de ces épices qu'on peut faire sous forme de thé pour prendre soit le matin, soit après le déjeuner, soit après le dîner. Donc cet article propose 8 thés pour avoir un poids santé avec plusieurs conditions bien sûr. Ne pas prendre le thé et être sédentaire, ne pas prendre le thé et prendre trop de sucre, ne pas prendre le thé et être trop dans le gras, ou prendre le thé sur un aliment très gras. Donc des conseils assez pratiques. Le thé, c'est bon pour la santé. On a plusieurs herbes chez nous qu'on peut faire sous forme de thé pour notre santé. On a des propositions dans cet article.
Vous avez des propositions dans cet article. Merci beaucoup, Gadiel Tonadi, pour toutes ces informations. Si nous voudrons vraiment recevoir ou acheter alors le journal d'aujourd'hui, quelles sont les dispositions à prendre?
Pour cette semaine, on invite les gens à aller sur le site. Donc, voilà. Vous pouvez santé-education.tg et pour télécharger la version électronique, c'est à 500 francs.
C'est à 500 francs. Merci beaucoup à vous, Gadiel, d'être passé alors dans cette émission.
Merci.
Ça fait toujours plaisir. Alors, Sylvestre Béli, bonjour.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous.
J'espère que vous allez bien.
Je vais bien. Mais si vous le permettez, je vais faire rapidement cette alerte-là.
Oui.
Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et c'est avéré. Où les pêcheurs, ceux qui font donc le métier de la pêche, se plaignent qu'aujourd'hui, vous savez que les enfants sont en vacances, ils viennent nombreux au niveau de la plage et vont souvent se baigner. et ils regrettent que le nombre donc de noyades croît, augmente véritablement. Donc ils demandent, c'est un cri d'alerte, ils lancent donc aux autorités de prendre des dispositions. Ainsi, il faut mettre plus de forces de sécurité au niveau donc de la plage et tout ça pour dissuader ces jeunes-là. Parce que je crois que c'est un message important. Les jeunes étant en vacances, il faut les suivre du côté donc de la plage parce que les noyages deviennent augmentent. C'est ce message que je tiens encore.
Non, je pense que c'est un message très très important ce que vous venez alors de dire, puisque tel que vous l'avez dit, nos frères, nos enfants sont actuellement en vacances, mais toujours est-il que ces jeunes-là vont à n'importe quel endroit, et notamment la plage, et finalement il y a le désastre alors qui s'ensuit ou le drame qui s'ensuit. Il est très important d'interpeller les autorités pour cela. Abbas.
Oui, Sylvestre a bien fait d'interpeller et de lancer cette alerte à l'endroit même des autorités sécuritaires et même à l'endroit de la commune.
Tout à fait, des mairies.
Des communes, pour qu'on puisse prendre, au moins qu'on soit prudent, parce que c'est les vacances. Et pendant les vacances, tout le monde cherche à aller à la plage, qui est pratiquement le seul lieu de distraction. Donc les enfants disent, je vais à la plage. Même sans l'avis de leurs parents, ils s'en vont à la plage. Et ce qui devait arriver, s'ils ne font pas attention, ils vont tenter de vouloir rentrer dans la mer. Ils disent qu'ils vont tenter de nager. Et le pire est arrivé, le drame est arrivé. L'année dernière, je pense qu'il y a 2 ou 3 ans de cela, il y a des jeunes qui ont pris la moto. C'est des élèves de terminale qui ont pris la moto leur moto pour se rendre à la plage vers Aného. Et après, on les a retrouvés morts. Donc, je pense que les parents aussi doivent être vigilants à leur niveau pour contrôler, surveiller les sorties et les sorties de leurs enfants. C'est très important.
Non, c'est très important.
Sylvestre a bien fait de le faire.
Effectivement, puisque c'est aussi, puisque cette émission Club de la Presse, c'est aussi en quelque sorte une plateforme pour sensibiliser surtout les uns les autres pour cela. Et les parents aussi qui sont à la maison doivent veiller surtout alors sur les enfants en ces moments alors de vacances et leur interdire un certain nombre alors de choses, certaines visites. Il faut leur interdire cela, n'est-ce pas?
Surtout ça. Il faut suivre les enfants en ces périodes donc, de vacances. Vous savez, généralement, les parents ne sont pas là, ils sont au boulot. Donc après, on ne sait pas ce qui se passe derrière.
Voilà.
Donc c'est l'occasion également donc, de mettre un certain nombre de dispositifs, surtout pour les plus jeunes, là, d'essayer donc, de les canaliser.
Tout à fait.
C'est vrai que lorsque vous voyez l'audio donc, des pêcheurs, ils disent qu'il y a quand même des forces de sécurité qui sont là. Parce que le drame qui est intervenu il y a quelques jours, ils disent que ben, c'est les forces même de sécurité qui sont venues donc, les alerter afin qu'eux puissent se jeter rapidement donc, dans la mer pour sauver ces enfants-là. Donc, ça veut dire qu'ils sont là, mais pas en nombre suffisant. Donc, avis aux communes également de mettre un certain nombre de dispositifs. Et souvent aussi, ils disent quasi pas aux jeunes, puisqu'ils ne sont pas agilés, ils ne sont pas identifiés, ils ne sont pas de force de sécurité. Les jeunes, les dingues, ils n'écoutent pas leurs conseils. Mais quand le pire arrive, c'est eux qui se jettent dans la mer pour aller donc les sauver. Voyez-vous donc, avis donc aux autorités, aux communes, tout ça, de prendre un certain nombre de dispositions, surtout au niveau de la plage, pour éviter qu'on enregistre encore des morts.
D'accord.
À la plage.
Merci beaucoup. Alors, ce qui fait qu'on enregistre encore des morts, c'est les accidents de la route. Ouais. Et là, Abbas, vous êtes revenu alors sur le sujet des accidents de la route, alors ce matin à la une de votre journal, Le Mania Libéré, et vous écrivez ceci, enfin des radars de contrôle alors de vitesse sur nos routes, en intitulant, en écrivant un sous-titre, lutte contre l'insécurité routière, bien sûr. Alors, ce qui veut dire que c'est une innovation sur nos routes maintenant, quand on parle alors des radars de sécurité.
Oui, vous savez, la plus grande partie des accidents sont dus aux excès de vitesse. Souvent même, les gens sont dans un état d'ébriété, mais ils pratiquent la vitesse sans le savoir. Donc, depuis quelque temps, on avait voulu essayer les radars. L'annonce avait été faite il y a de cela, je crois, 3 ou 4 mois. Et aujourd'hui, c'est devenu effectif dans les grand carrefour, sur nos grandes routes, il y a ces radars sophistiqués qui ont été mis à la disposition de la division de la sécurité routière, la DSR. La DSR,
voilà.
Qui est chargée de contrôler tout, parce que c'est des gens qui sont là, ils sont en train de contrôler. Lorsque vous faites la vitesse, il y a une vitesse limite minimum qu'il faut adopter lorsque on est, que ce soit sur la moto ou que ce soit en voiture. Je pense qu'en agglomération, c'est 50 km/h que vous devez faire. Mais lorsque vous dépassez ces 50 km/h, le radar vous flash. Et il y a un signe devant. La personne, celui qui est devant, il vous arrête. Et lorsqu'on vous arrête, votre voiture est flashée avec le numéro là-dessus. Et on vous dit que vous avez fait excès de vitesse. Et là, on vous arrête. Pour le moment, lorsque nous avons pris des renseignements, on dit que c'est à l'étape de la sensibilisation. En attendant d'avoir d'autres radars qu'on va placer sur la grande route, les nationales, numéro 1, numéro 2, numéro 3, tout ça là, pour que aujourd'hui c'est à l'étape de la sensibilisation. Donc les gens n'ont qu'à prendre, être prudents sur la route et faire attention. C'est de la alerte aussi que nous avons voulu lancer par rapport à l'installation aussi de ces radars. Les gens ne le savent pas. Également, il y a des caméras au niveau des grands carrefours, au niveau des feux rouges et des feux tricolores. Lorsque vous violez le feu tricolore, le feu rouge, vous le violez, c'est que on ne vous arrête pas. Il n'y a personne pour vous arrêter.
Mais vous êtes en infraction.
Vous êtes en infraction. Mais toutes vos indications sont déjà prises par la caméra. On arrivera même chez vous pour vous prendre. Vous avez dit que vous avez fait quoi? Vous avez violé. On vous montre toutes les choses que vous avez faites.
Avec des photos à l'appui.
Vous allez payer le déplacement des forces de sécurité qui sont venues vous chercher.
Ah bon?
Et vous allez payer l'amende.
On ne les a pas invités. Pourquoi payer leur déplacement?
Hein? Vous avez commis une infraction.
C'est une infraction.
Et l'infraction n'a pas besoin d'invitation. Donc, c'est comme ça. Ça se passe. Donc, aujourd'hui, nous devons appeler les uns les autres à être prudents sur la route et à observer, à veiller à l'observation du code de la route. Surtout du code de la route. Ces essais de vitesse, il faut qu'on les diminue et qu'on respecte ce que le kilométrage qui a été donné pour que en ville, en agglomération, pour qu'on puisse être en sécurité. Parce que on ne peut pas tout le temps continuer par compter le nombre de morts dus aux accidents de route. Et à chaque trimestre, à chaque semestre plutôt, il y a le ministère de la sécurité et de la protection civile qui fait un bilan macabre des décès dus aux accidents de circulation et des blessés graves. Tout ça, là, il faudrait qu'on arrête. Et c'est pour cela que le ministère de la Sécurité a mis en place ces radars. Ça, c'est des radars pilotes qui sont en train d'être faits.
D'accord. Sylvestre, voilà nos routes qui sont équipées alors de radars. Allez, c'est en quelque sorte une innovation à saluer.
Oui, en fait, c'est une très bonne chose. Ça, je crois que ce sont quand même des initiatives à saluer. Hein, et c'est un projet pilote. J'aurais quand même souhaité qu'on puisse commencer par les voies qui tuent beaucoup, notamment la route d'Aïdo-Gomé et puis la voie du contournement. Parce que ces deux voies-là, j'avoue que les Togolais circulent là comme si ils n'ont pas ils ont deux vies, quoi. C'est-à-dire que si la première est heurtée, on ira chercher donc la seconde. Ouais, vous. Mais bon, il faut toujours un début et ça a commencé par là. Hein, je crois qu'il y a des pilotes et des pays qui ont commencé avec nous, comme des pays comme la Côte d'Ivoire, où l'infraction est commise, quelques minutes après, vous avez un message sur votre téléphone qui vous signale que vous êtes en infraction, on vous donne quand même toutes les informations possibles. Et vous savez, si on arrive donc à passer donc le cap de la phase pilote et que on a mis cela et toutes les routes du pays, du moins sur les grandes routes du pays, sont quand même dotées de caméras. Vous verrez que c'est également un autre élément pour permettre donc d'avoir plus donc de absorber un peu le chômage, parce qu'il faut des gens. Seuls donc les hommes en tenue ne sont pas aussi en nombre suffisant pour le faire. On peut également coopter quelques informaticiens et tout. Vous voyez, donc c'est également une main d'œuvre aussi. Il faut absorber un peu le taux de chômage qui est élevé, parce qu'il faut visualiser la caméra, il faut notifier cela aux Togolais et tout. Donc c'est un élément important. Mais vous savez, il faut d'abord, moi je crois que la La première sécurité sur la voie, c'est d'abord nous-mêmes. Mm-hmm. Hein, c'est d'abord nous-mêmes. Une fois que tu sors de la maison, tu sors d'une famille, pense donc à revenir sain et sauf donc, à cette famille-là, parce que même si toi-même tu juges que tu n'es pas aussi important, il y a certains qui ont besoin de toi. Il y a des enfants qui doivent t'appeler papa, il y a maman et tout le reste, voyez-vous. Donc il faudrait quand même, quand nous sortons de la maison, hein, il faudrait que nous puissions...
Des fois, il a dit même d'ailleurs qu'il y a certains qui roulent hein, sur nos routes comme s'ils sortent pour ne plus revenir.
Ne plus revenir, voyez-vous. Et même si vous voulez vous suicider, pensez donc à quelqu'un d'autre. Parce que oui, si vous voulez vous suicider sur la voie, puisque vous allez peut-être dans vos chutes heurter certaines d'autres personnes ou entrer d'autres personnes dans l'accident. Voyez-vous, il y a tous ces éléments-là. Hein. Je profite de l'occasion pour alerter donc les forces de l'ordre sur tous les matins. Vous prenez donc la voie qui quitte donc le campus, hein, la grande voie qui va vers la colombe de la paix. Sur cette voie là donc le matin, franchement,
le boulevard
Yassine Adema. Oui, vous prenez cette la voie là le matin, franchement, c'est une voie où ce n'est pas pour peut-être étiqueter une communauté, mais nos amis, nos frères, Médira, qui quittent la Guayaquil pour aller vers le Grand Marché, avec leur moto, là, franchement, ils roulent comme si, c'est la fin de leur vie, quoi. Mm-hmm. Voyez-vous, il faudrait quand même que les forces de sécurité soient beaucoup plus regardants sur cette voie-là.
Tout à fait, le message est passé.
Et surtout la voie, attaque pas mal aussi, la voie dans le carrefour à Bonou, là, je crois qu'il y a encore quelques jours, il y a encore eu un accident au carrefour à Bonou. Je crois qu'il faudrait, mais, à Bonou, il y a tellement de forces de sécurité, surtout à ce carrefour-là.
Oui, oui.
Voyez-vous, donc il faudrait également qu'on soit un peu plus rigoureux au niveau donc de cette voie d'Atapame. Et au passage, je salue, il y a une professeure de français qui est à Atapame, je la salue au passage, elle s'appelle Angèle Djahan.
D'accord, il reçoit votre salutation. Voilà. Alors oui, Abbas, c'est vrai que c'est une belle initiative, bien sûr. Maintenant, nous, en tant que citoyens, comment allons-nous prendre hein, par rapport même d'ailleurs à cela? Parce que vous avez évoqué quelque chose tout de suite, c'est que peut-être il y a des gens qui sont alors des contrevenants, hein, c'est-à-dire qui sont en infraction. Automatiquement, les forces de l'ordre peuvent venir chez vous à la maison et peuvent alors vous envoyez peut-être alors des amendes et tout. Et comment s'y prendre, surtout en tant que citoyen?
C'est ça que nous sommes en train de dire. Il faut être prudent. C'est pour éviter des comportements inciviques que tous ces gens-là... Parce que si on respecte le code de la route aujourd'hui et on dit on respecte la limitation de vitesse qui est faite en agglomération, il n'y aura pas de problème. Il faudrait que nous-mêmes, on se respecte quand on sort sur la route, qu'on sache que nous sommes sortis, c'est pour revenir voir notre famille. Quand vous allez prendre la route d'Odman jusqu'à aller à Zangera, vous allez voir que la route est bien tracée. Avec les lignes, on a quatre voies. C'est quatre voies, ça. Donc, les gens roulent. Au lieu de suivre sa ligne jusqu'à aller, vous allez voir qu'il est pressé. Il vient.
Il fait un dépassement.
Donc, il fait des détours comme c'est des zigzags, des slaloms sur la route, alors que chacun a sa voie. Or, lorsque dans un Abidjan, lorsque vous faites ça, quand vous sortez de votre chose et vous êtes constaté par l'effort de sécurité, on vous amende, on vous arrête. Aujourd'hui, les gens n'ont qu'à prendre la peine de respecter cette situation qui se présente avec les nouvelles routes qui sont construites.
Et surtout, respecter le code de la route.
Respecter le code de la route. Mais là, par rapport au feu tricolore dont on parle, et où les grands carrefours comme carrefour de l'aéroport Bojona, et où lorsqu'on a mis les caméras, maintenant, il reste aussi à revoir les feux rouges aussi qui ne travaillent pas, les feux tricolores qui ne travaillent pas. Quand vous prenez le GTA, au niveau de GTA, il y a seulement deux feux tricolores qui travaillent. C'est-à-dire quand vous venez de... à Tikoumé.
Voilà. Oui, l'avenue de la chance.
C'est l'avenue de la chance.
Avant, c'était pour le tête de Kikamé.
La prétère de Kikamé. Et vous arrivez au GTA, carrefour, il y a le feu rouge là-bas.
Tout à fait.
Lorsque vous venez de boulevard et Adema, le feu rouge là, qui est là, ne travaille pas. L'autre feu rouge en venant de la présidente de la République ne travaille pas. Si bien que lorsque ceux-là qui viennent de Atikoumé, Kikamé, lorsque le feu vert est allumé et il démarre, en ce moment, les autres continuent, et croyant que le feu rouge est en panne.
Et finalement, il y a aussi des policiers souvent là-bas.
Il y a des policiers, mais ils sont là, ils ne réglementent pas la situation, la circulation là-bas. Ils sont là, assis, tu les vois assis.
Leur
téléphone à main. C'est peut-être souvent vers les heures de descente et les heures d'agglomération qui vont se rester là-bas, se mettre là-bas. Donc, moi, par rapport à ce que nous sommes en train de dire sur les caméras de surveillance qu'on met, lorsqu'on met les caméras, il faudrait qu'on ait de belles infrastructures.
Tout à fait.
Et qu'on ait aussi des feux tricolores qui fonctionnent dans la norme. S'il n'y a pas de fonctionnement, s'il y a pratiquement des feux allumés là, ces feux tricolores sont pratiquement en panne dans presque tous les carrefours. Mais on peut compter même ces feux tricolores qui travaillent. Donc, si nous-mêmes, on devait se comporter bien, mais il faudrait que ceux-là qui sont chargés, je ne sais pas si c'est les communes qui doivent se charger de réparer ces feux tricolores, ou bien c'est la grande commune, on appelle ça
le district
autonome
du Grand Lomé.
Du Grand Lomé qui doit prendre ça en charge. Donc, il faudrait que les gens puissent revoir les feux tricolores. Et avec ça, nous allons éviter les accidents. Parce qu'on ne peut pas mettre les radars, les caméras d'expérience et des feux tricolores ne travaillent pas.
Oui,
parce que à Tikoumé, là, il va falloir aussi mettre. Je dis à Tikoumé. À Tikoumé même et GTA,
oui.
Il va falloir mettre aussi des caméras de surveillance. Mais il faut réparer.
Ah, parce que je vous comprends très bien, puisque ça ne sert à rien de mettre les caméras. Sans que les feux ne travaillent pas. Alors, Sylvestre, ce que Abbas évoque, c'est très important, parce que, oui, le constat est fait aujourd'hui que beaucoup de feux tricolores ne marchent pas ou ne fonctionnent pas alors dans la capitale. Et quand vous prenez même d'ailleurs la voie de Décon, le boulevard circulaire, bien sûr, et quand vous prenez même cela, vous verrez quand même qu'il y a des feux tricolores qui ne marchent pas, mais aussi des lampadaires qui ne marchent pas, ou qui sont là et qui s'éteignent et s'allument aussi en dents de scie.
Oui, je l'ai dit ici qu'à Lomé, nos lampadaires fonctionnent comme des guirlandes, quoi. Les guirlandes, les sapins de Noël, vous voyez, on met les guirlandes qui s'allument. C'est comme ça donc que nos lampadaires fonctionnent, et même nos feux tricolores. Abbas a si bien fait donc de prendre l'exemple de la voie qui est à Tikoumé, l'avenue de la Chance vers GTA. Arrivé au niveau donc de Agbalpé Dogan, il y a un feu là-bas qui est juste à côté de l'entrée nord-sud de l'université de Lomé.
De Lomé,
vers le nouveau marché de Clicamela.
Tout à fait.
Le feu qui est là, c'est à cheval entre trois communes. Il y a commune Golf 4, il y a commune Golf 3 et commune Golf 5. Alors, on nous dit aujourd'hui que généralement, c'est la commune qui doit réparer ces feux-là. Maintenant que ce feu-là est à cheval entre trois communes, je ne sais pas si les trois communes vont se cotiser pour réparer le feu. Et ce feu-là ne marche jamais. Ne marche presque toujours pas. Cette année, je ne sais pas si ça a marché au moins une ou deux fois. Et à l'entrée, on met sur les policiers là-bas qui... À l'entrée, au début donc de la rentrée, voilà. Mmh. Au début de la rentrée scolaire, on mettait souvent des policiers là-bas pour réglementer la circulation. Maintenant que, bon, les jeunes sont en vacances et tout ça, ces policiers aussi ne viennent plus. Donc là, c'est... Tout le monde passe, quoi. Tout le monde a presque la priorité. Or, aussi, il faudrait aussi savoir que s'il n'y a pas de feu, bon, il y a le code qui peut s'appliquer.
Tout à fait.
Voyez-vous, donc, souvent, on parle également des feux. Quand il n'y a pas de feu, donc appliquons au moins le code. Celui qui a la priorité, on le laisse, et puis bon, voilà, quoi. Ça va juste durer quelques secondes, et tout le monde ira donc.
Il y a aussi la règle de courtoisie.
Oui, justement. Mm. Et tout le monde ira donc à son rendez-vous.
Mm.
Donc, bon, tel que je le dis, il faudrait que ça commence par nous-mêmes. Nous, Togolais, quand nous sortons de la maison, il faudrait quand même que nous faisons ce pari-là de revenir vers la famille. Et donc, en circulation, on doit être prudent.
D'accord.
C'est vrai que vous pouvez être prudent, mais il y a aussi ici un chauffard qui viole et tout ça là. Donc, que le chauffard aussi soit conscient. Que tout le monde soit prudent, conscient, en sortant de sa maison,
c'est très important.
Même s'il n'y a même pas de feu, on peut circuler à Lomé.
On peut circuler à Lomé. Si tous nous sommes conscients et nous sommes prudents aussi.
Et que Lomé n'est pas aussi grand, comme Accra et tout ça, où on a souvent de l'embouteillage. Après quelques minutes, c'est fini. Donc, juste la patience et la prudence, je crois que ça devait normalement y aller.
Tout à fait. Nous appelons tout le monde à la patience et à la prudence aussi.
Oui, c'est la patience et prudence. Même s'il n'y a pas de feu, parce que quand vous prenez le carrefour, grand carrefour douane, qui est construit au niveau de douane là, il n'y a pas de feu là-bas. Mais les policiers sont là pour réguler la circulation. Mais lorsqu'il n'y a pas de policiers, les gens, il faut qu'on respecte la priorité à droite. Lorsqu'on dit que vous avez priorité à droite, c'est que ce n'est pas que vous allez virer à droite. Quand quelqu'un vient de votre droite, il faut que...
Il y a une intercession
et vous devez respecter ça. C'est ce que le code de la route dit. Donc, c'est les grands carrefours là. Il faut revoir. Donc, j'ai dit encore une fois qu'on revoit les feux de tricolore, les feux de tricolore qui sont en panne et les infrastructures. Lorsque vous prenez Lomé, puisqu'on dit qu'on va installer aussi sur les grandes voies, quand vous prenez Lomé pour aller jusqu'à à l'intérieur du pays, la seule chose quand vous quittez, c'est de. Après Chevier, c'est des difficultés. Lorsque vous payez le péage, c'est des difficultés que vous allez rencontrer pour aller jusqu'à au niveau d'Anié, à Takpamé, Anié, avant de vous avoir une bonne route. Donc il faudrait qu'on revoie tout ça là, les infrastructures routières, et réparer les feux tricolores, mettre les feux tricolores là, il n'y en a pas. On a vu que même à l'intérieur du pays, à Sokodé, à Chevier, il y a des feux tricolores là-bas. Et si ça ne travaille pas, ce n'est pas la peine qu'on puisse dire quoi que ce soit.
Tout à fait. Merci beaucoup, Abbas, pour justement cette intervention sur le sujet alors de la sécurité routière. Et je pense que nous sommes tous ensemble sensibilisés à faire assez de prudence et aussi de patience sur nos routes pour que du moins nous arrivions aussi à destination comme cela se doit, puisque notre vie en dépend, bien sûr. Alors, nous allons quitter le sujet. On parle alors de notre sujet. C'est vrai, il y a les journaux en ligne, les sites qui ont évoqué ce sujet hier, notamment il y a Togo Breaking News qui l'a évoqué, il y a aussi le site Gapola aussi qui l'a évoqué. Je veux bien parler alors de cette nomination de Pius Agbe Tomé, l'ancien ministre alors de la justice à la présidence. Abbas, je ne sais pas si vous avez suivi l'information, il semble que c'est depuis le 3 mai dernier qu'il a été nommé à la présidence, puisque en janvier dernier, nous avons tous ensemble vu déjà pas d'écrit où il y a eu une autre nomination, où le professeur Namtougli a remplacé Pius Agbe Tomé au ministère de la Justice. Et finalement, on comprend tout simplement qu'il y a un autre poste. Alors pour Pius Agbe Tomé, c'est la présidence.
Oui, il est nommé conseiller juridique.
Tout à fait.
À la présidence de la République. Et le décret a été pris depuis le 3 mai. Donc ça fait plus d'un mois. C'est pour ça qu'il dit, il y a certains situations, ce n'est pas la première fois qu'on prend les décrets et qui ne sont pas immédiatement mis en application. C'est après quelque temps, peut-être que le chef de l'État qui a pris ces décrets, c'est pourquoi ça retarde avant de les mettre en application. Il y a également, on avait vu même la nomination de M. Pascal Boudjouna à la présidence,
en tant que conseiller politique,
en tant que conseiller et le conseiller économique, l'ancien commissaire Adoui, aussi conseiller économique à la présidente de la République. Donc, oui, ça ne tombe pas, mais moi, c'est hier seulement que j'ai vu l'information et c'est les sites en ligne qui l'ont annoncé. Tout d'abord, quand moi, j'ai vu une première annonce, je disais que depuis quand est-ce qu'il y a un décret, une nomination qui a été pris, mais par après, j'ai vu qu'il y avait un décret qui a été pris depuis le 3 mai.
Oui, mais Abbas, moi, tu sais, l'angle sur lequel je voudrais quand même qu'on attaque la chose, c'est vrai que je suivais un commentaire hier par rapport même d'ailleurs à cette nomination. Il y a ce commentaire qui disait qu'on fait la même chose avec les mêmes. Finalement, est-ce que ce commentaire n'est pas vrai?
Oui, mais c'est vrai, puisqu'on prend les mêmes et puis on recommence. Ce commentaire, peut-être le chef de l'État a confiance à certaines personnes. Et veut continuer pas à travailler avec eux.
Et finalement, parmi les 8 millions que nous sommes, il y a plus d'autres personnes quand même de confiance.
Ah bon? Ça, on n'est pas dans les secrets.
Tout à fait. Alors, Silas, je ne sais pas, quand vous avez appris l'information, finalement, on fait justement les mêmes choses avec les mêmes personnes.
Oui, on prend les mêmes et on recommence. On prend les mêmes et on recommence. C'est juste là la République.
Et on ne va pas avoir aussi de différents résultats.
Monsieur Pius Agbe Tomé, c'est vrai, je n'ai rien contre lui. Mais le monsieur était là déjà, quand on parle donc du 5 octobre 90.
Tout à fait.
Le monsieur était là depuis le 5 octobre 90. Il était déjà en fonction. Jusqu'aujourd'hui.
Il était le président.
Il était même le président donc du procès.
Tout à fait.
Ouais, président du tribunal.
Du tribunal au procès du 5 octobre.
Ouais.
Et du 5 octobre jusqu'aujourd'hui, il continue à travailler jusqu'aujourd'hui. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que c'est les mêmes, on prend les mêmes, on recommence, c'est-à-dire, c'est comme si on jette des chèques, aujourd'hui il est là, demain il est là, mais c'est les mêmes, sur les 8 millions d'âmes, et au même moment on nous dit qu'il n'y a pas du boulot, oh il y a certains qui sont là, et même, mis à part M. Pussac-Bétorvé, il y a d'autres qui sont là, qui cumulent des fonctions, les cumulants sont là, mais au même moment on dit aux jeunes que l'État ne peut plus employer, que que tout est plein, on ne peut plus donc prendre des jeunes, d'aller donc faire de l'entrepreneuriat et tout ça. Mais il y a certains qui sont là, qui sont ministres, qui sont DG, qui sont PCA, et c'est les mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres Togolais qui ont des compétences pour assurer cela? Bon, que le chef de l'État prenne M. Pussac-Bétorvé comme conseiller juridique, bon, peut-être que ça dépend donc de leur relation, il a confiance en lui.
Voilà, justement, est-ce que ce n'est pas une question de confiance aussi?
Oui, bon, s'il y a une il peut prendre qui il veut. C'est lui qui est donc qui sera comptable devant les Togolais lors des élections. Bon, c'est lui qui est le président. Donc c'est lui-même qui choisit ses pions. Il sait là où il va et il sait avec qui il va peut-être à la finalité, donc au but ou au cap choisi. Donc c'est lui qui choisit ses pions. Mais ce que nous dénonçons, c'est-à-dire que c'est les mêmes qui sont là. C'est les mêmes depuis des années. C'est les mêmes qui sont là. Qui quitte aujourd'hui, M. Puiss a été président, président du tribunal. Après, il a été inspecteur général. Il revient en tant que ministre. Et il quitte ministre quelques jours après, on le rappelle, pour devenir conseiller juridique du président. C'est les mêmes qui tournent, quoi. Vous voyez, la République tourne autour de quelques personnes. Vous voyez, d'un noyau seulement qui sont là. Mmh. Et c'est ça, c'est ce qui, parfois, donc, nous met hors de nous. Ce n'est pas sa personne. Oui, il est compétent. Mais à part lui, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes? Vous savez, je crois que c'est un Béninois. C'est un Béninois ou un Burkinabé qui disait que si lui a assumé ses fonctions jusqu'à la retraite et qu'il n'a pas été capable de former un ou deux jeunes pour le remplacer, vous savez comment il a appelé ça?
C'est un échec.
Il dit que c'est une criminalité étatique. C'est-à-dire que s'il a travaillé jusqu'à sa retraite et lui-même, il n'a pas su former deux jeunes qui puissent le remplacer valablement dès qu'il ne sera pas là. Et à la retraite, on le rappelle encore pour le même travail. Lui-même, il appelle ça une criminalité étatique. Il faut donner la main aux jeunes, quoi.
Des fois, c'est une frustration. Ça donne plutôt alors une frustration pour certains, peut-être, qui ont la compétence, mais qui n'ont pas justement alors cette chance.
Oui, c'est une frustration, effectivement, parce que il y a des gens compétents. Et moi, je me dis, est-ce que c'est un problème de confiance? Sinon, ça frise beaucoup. Mmh. Beaucoup de jeunes.
Le mal, c'est qu'on voit même certains qui sont déjà à la retraite et continuent leur
fonction. Des gens qui ont fini même leur retraite, par exemple, Pussac-Bétorvé, lorsqu'il a 90 jusqu'à ce jour, je pense qu'il est déjà à la retraite. Avant qu'on le nomme ministre, on l'a nommé ministre, on doit le laisser juste de sa retraite. On a vu beaucoup de personnes qui sont ramenées comme ça. C'est pour cela que je dis que celui qui nomme, il sait pourquoi il nomme, il sait pourquoi il a nommé celui-ci, pourquoi il a nommé cela. Si le monsieur va lui faire un travail correct, va l'accompagner dans ce que lui il veut faire, certainement il le nomme. Mais c'est que quand ça se passe ainsi, il y a des gens aussi qui ont fait des études et qui attendent de servir la République. Et c'est de là qu'on parle de la frustration, parce qu'il y a des jeunes compétents également dans ce pays. Et bon, moi je mets tout ça là dans la confiance que le chef de l'État a en ces personnes qui vont travailler avec lui. Mmh. C'est tellement qu'il y aura une relève par après. Mais pour le moment, on ne peut pas critiquer cette nomination parce que il a fait ceci, il a fait cela, et puis on l'a ramené. Bon, celui qui l'a nommé, c'est pourquoi il l'a mis là-bas.
Oh, mais c'est parce que de quand voudrait quand même qu'on ait d'autres visages, enfin de nouveaux visages. D'accord. Alors, nous allons faire même d'ailleurs la transition rapidement pour aller vers la politique, puisque nous y sommes déjà. Alors, déjà à la une alors de votre journal ce matin, vous parlez de la nomination d'un premier ministre de transition et vous écrivez nomination alors d'un premier ministre de transition Togo, les possibles alternatives, et à la une alors de votre journal, vous mettez la photo alors de l'homme Klassou, Madame Dobé et aussi de Kakounoubou. Bon, alors finalement, l'alternative, c'est parmi eux ou bien c'est quoi?
Bon, l'alternative, c'est parmi eux et aussi les tests. Vous savez, le titre parle de deux choses à la fois. D'abord, vous avez vu que nous avons titré Premier ministre de transition parce qu'ils viendront juste pour assurer la transition. Hein, je crois qu'il reste, techniquement, 8 ou 9 mois pour qu'on puisse véritablement balancer vers l'effectivité ou l'effectivité donc de la nouvelle constitution de 2024. Et si vous prenez quand même ces personnages-là, je crois que Monsieur Selom Klassou, Docteur Selom Klassou, il a déjà fait la primate. Donc je crois qu'il pouvait valablement donc jouer ce rôle-là. Madame Victoire Sidemero Tomega Dogbo aussi, étant donc celle qui évacue maintenant les affaires courantes avec son équipe gouvernementale qui a présenté sa démission, je crois, le 21 mai dernier. Et puis, bon, Kakpo, oui, peut-être l'incertitude peut se jouer autour donc de lui, mais vous savez, en politique, on ne dit jamais non. C'est vrai que Kakpo, l'ancien ministre, Kakpo Nuboko, a critiqué donc la constitution, le changement de la constitution et tout ça. Mais si demain on lui fait appel donc de venir prendre la primature, ne serait-ce pour la transition. Bon, peut-être si en ce moment on verra si il pourra refuser ou non. Si on peut refuser un poste de premier ministre au Togo, bon, on verra. Bon, le personnage, on le connaît, on sait que il refuse souvent des choses plus que ça, mais peut-être aussi un lendemain on lui fait appel, on verra.
Il pourra le recevoir et démissionner par après.
Ah oui, puisqu'il a la culture de la démission dans ses veines. Ben, on verra, c'est quelqu'un qui dit les choses telles qu'il les pense. Je crois qu'il était même au gouvernement. Il critiquait le fait même que, puisqu'il était au ministère donc de la prospective, donc il critiquait le fait même que même ses collègues et tout ça ne viennent pas vers lui avec des idées et tout ça pour qu'on puisse véritablement.
Mais sur ce point, est-ce que le ministre Kakpo Nuboko ne confondait pas les réalités? Peut-être que ce sont des réalités alors des pays développés. Mais ici, c'est autre chose.
Non, Kakpo, je crois qu'il est également dans les réalités aujourd'hui, parce que aujourd'hui, avant même Kakpo, il y a l'ancien président ivoirien Gbagbo, Laurent Gbagbo, qui disait qu'il faut sortir du franc CFA. Ça, c'était bien avant donc l'avènement de Kakpo. Aujourd'hui, il reprend donc la même chose. Et tous les pays africains aujourd'hui, je crois, le débat se pose. Est-ce qu'il faut continuer avec le franc CFA ou il faut arrêter et tout ça? Donc, c'est un monsieur qui sait là où il va et qui dit les choses telles qu'il les pense, même quand il a été sorti du gouvernement. Je crois qu'il a dit ouvertement ce qui s'est passé, qu'il a demandé, il a donné un nom, le nom d'un président africain qui a demandé à ce qu'on puisse sortir du gouvernement au Togo, quoique ce président-là n'est pas le président togolais. Donc voilà, c'est quelqu'un qui dit les choses telles qu'il les pense. Mais aujourd'hui, il a quand même les compétences, il a la matière pour être Premier ministre au Togo. Mais est-ce qu'il va accepter, puisqu'il a déjà critiqué la Constitution, mais c'est lui qui va assurer la transition vers la Constitution, est-ce qu'il va accepter? Ça, c'est le premier élément. L'autre élément, c'est que nous sommes revenus aussi sur les tests. Si vous prenez donc les dispositions transitoires, je crois que les dispositions transitoires sont claires. En ce qui concerne donc la nomination donc du Premier ministre, je crois qu'on faisait trop de débats là-dessus, mais lorsque vous lisez un peu les thèses aujourd'hui, notamment l'article 96 et l'article 97, ça donne clairement donc cette probabilité de nommer encore un premier ministre qui va assurer donc la transition jusqu'à la mise en place donc du PCM, du président du Conseil des ministres et du président de la République. Ça, c'est l'article 97 qui le dit, qu'ils resteront jusqu'à expiration. L'expiration ne viendra qu'à l'entrée. Donc, de ces deux institutions-là, le PCM et puis le président du.
Donc, ce qui veut dire qu'il y a possibilité alors.
Il y a possibilité, véritablement. Si on prend les tests, je crois, les dispositions transitoires disent clairement qu'il y a possibilité. C'est pas une entorse à la loi.
D'accord. Abbas, est-ce que vous voyez peut-être alors le premier ministre parmi ces personnalités citées par Sylvestre?
Oui, bon. Ça peut arriver parce qu'on n'est pas dans le secret de Dieu, comme on le dit. Actuellement, on est à l'étape des supputations également, mais parmi ces personnalités qui sont citées par le journal La Manchette, c'est tellement qu'il y aura une surprise quelque part. Parce qu'on nous a habitués aussi à ces surprises, à ces genres de surprises. Donc, on attend de voir la prochaine nomination du gouvernement, qui est imminent même. La nomination du gouvernement.
Vous êtes vraiment dans le secret des dieux.
Oui, c'est imminent quand même, c'est imminent parce que. selon l'article 97, Sylvestre l'a cité tout à l'heure, les pouvoirs du président de la République prennent fin avec la mise en place du président du Conseil
des ministres
et du président de la République. Pour le moment, le chef de l'État actuel garde tous ses pouvoirs. Il peut nommer son gouvernement. Et parce que là, le gouvernement, lorsqu'il va le nommer, le gouvernement va compléter la mission qui est assignée à ce gouvernement qui est en train de partir. Puisqu'il y a une feuille de route qui est en train d'être exécutée. Et cette feuille de route, actuellement, les ministres qui sont là ne peuvent plus prendre des décisions comme ça pour engager la nation. Donc, il faut nommer un nouveau gouvernement et le nouveau gouvernement va finir la mission assignée à ce gouvernement actuel. Donc aujourd'hui, on est dans l'attente d'un nouveau gouvernement, mais on espère que parmi les trois qui sont cités, il peut y avoir quelqu'un qui sera nommé. Il a dit, mais Kakou Nouboupo, c'est quelqu'un qui est de compétent. Est-ce que le monsieur, lorsqu'il va être nommé pour quelque temps, pour ces petits mois qui restent, puisque c'est jusqu'à mai 2025, est-ce qu'il va accepter, assumer la charge de la primature? Et c'est de là que je parle des surprises. Que le chef de l'État peut prendre quelqu'un dont on ne peut même appeler quelqu'un de la diaspora pour venir occuper ce poste-là et continuer la mission qui est assignée à ce gouvernement actuel qui est en train d'expédier les affaires courantes. Donc, on attend de voir ce qui va arriver par après.
Tout à fait. On attend de voir ce qui va arriver par après. Il nous reste pratiquement 7 minutes, mais nous allons parler du Sahel. Nous allons aller au Burkina Faso, surtout. Le Burkina Faso avec le capitaine Ibrahim Traoré, avec sa transition de l'autre côté au Burkina Faso. C'est vrai, Sivas, vous suivez un tout petit peu ce qui se passe aussi au Burkina Faso. Tout récemment, on a vu même d'ailleurs ce qui s'est passé avec les attaques aussi au Burkina Faso, ce qui a fait même d'ailleurs qu'à un moment donné, beaucoup de gens se croyaient que le président Ibrahim Traoré a fui, mais finalement, il est revenu pour leur dire que, mais écoutez, je n'ai pas fui, je suis là. Et par après, c'est plutôt son grand frère, je veux bien parler alors du colonel Goïta du Mali, qui l'a visité, et pour lui dire que nous sommes toujours avec toi.
Oui, les pays de l'AES se soutiennent et quand même donnent de bons exemples depuis un moment. Concernant donc le cas de Ibrahim, le capitaine Ibrahim Traoré, où certains médias l'ont annoncé qu'il a fui le pays, le monsieur, il a expliqué. En fait, c'était un incident qui s'est produit au niveau donc de la radio et télévision donc du Burkina Faso, où des équipes donc qui surveillent la radio, ils devaient avoir dans de la passation de relais. Entre les anciens et les nouveaux qui sont arrivés. Il y a donc un tir de roquette qui est parti. Donc, les gens ont pris cet élément-là qui est vrai pour généraliser en disant que, parce qu'il y a eu entre-temps aussi des mouvements d'hélicoptères dans le pays. Donc, ils ont dit qu'il a quitté, il a fui le pays. Donc, il a expliqué qu'il est là. C'était donc une opération dans une localité donc, du pays. Qui venait prendre des éléments à Ouagadougou pour y aller. Donc, c'était ça, donc, ce mouvement d'hélico qui n'a jamais quitté. Et ceux qui pensent que, donc, la présidence est vacante, que le poste est vacant, que c'est là qui, donc, a venu prendre. Oui, celui qui sait qu'il est courageux, qui dit qu'il est vacant, donc, il n'a qu'à venir prendre. Donc, ils savent ce qui se fait là-bas. Ces trois pays-là fédèrent leur énergie. Ils ont déjà une force de sécurité commune. Il a même dit les soldats maliens ou burkinabés ou nigériens peuvent venir à Ouagadougou. Ceux de Ouagadougou peuvent aller dans d'autres pays comme ils le veulent.
Il y a une intégration.
Il y a une intégration qui se fait là-bas. Et ils luttent aussi de manière commune contre le terrorisme ou le djihadisme. Donc, je crois que c'est quand même un bel exemple. Normalement, c'est ce que devait être la CDAO. C'est ce que devait être la CDAO qui, je le dis, son but premier, c'est véritablement donc l'expansion économique donc des États et qui s'est mué pratiquement à une organisation politique qui veut même attaquer même un pays membre, voyez-vous, la CDAO, du fait de la CDAO, on devait avoir cette motu commune là, cette fédération entre les États. Si vous passez, vous Togolais, vous voulez passer maintenant au niveau donc, de la frontière donc, du Ghana, vous verrez quand même les tractations à ce niveau-là. Hein? Parfois, même, on prend le passeport, on vous dit de donner l'argent avant donc, de mettre même le cachet et tout ça.
Hein? Cette CDAO donc, ce qui veut dire que le passeport même ne vous donne pas un laissez-passer.
Justement, cette CDAO d'intégration n'était que d'un leurre. Pour rentrer ici, entrer la France, c'est juste, vous quittez peut-être la Belgique en voiture, vous allez en France et tout ça. Il y a une vidéo qui a montré la frontière entre le Luxembourg et la France. C'est juste un fleuve là qui passait. Il y a même pas un seul douanier là qui, vous voyez, ceux qui nous ont divisé nos pays à leur frontière, il n'y a presque rien. Mais ici, quitter, aller donc, au niveau donc de la frontière de Hela Kondi, hein, vous voyez, il y a tellement donc de tracasseries au niveau de nos frontières.
D'accord. Alors, aujourd'hui. D'accord. Abbas, c'est le journal La Lanterne hein, qui titre à sa une ce matin mieux que les autres pays de la sous-région, le Mali, le Burkina Faso et le Niger en plein dans les travaux de développement. Alors, finalement, on comprend que avec cette solidarité, cette intégration dont parlait tout de suite Sylvestre, il y a quelque chose où, du moins, les lignes ont commencé à bouger au niveau alors de ces pays de l'AES.
Oui, on espère que ça dure. Parce qu'actuellement, c'est les militaires qui sont...
Vous pensez que ça ne peut pas durer?
Ah oui, parce que ça dépend de l'avenir de ce qui va se passer. Parce que c'est les militaires qui sont maintenant en symbiose. Ils ont créé l'AES pour être ensemble et travailler ensemble. Est-ce qu'ils seront toujours au pouvoir? Parce que tel que les choses se passent, je pense que les militaires s'entendent beaucoup plus. Vous avez vu comment ils ont commencé par s'en prendre au niveau de au Sénégalais Diomaye Faye. Ils sont en pris à lui. Ils ont organisé, les Burkinabés ont organisé une manifestation hier pour dire que si Diomaye Faye ne s'aligne pas derrière l'AES, ils vont fermer l'ambassade du Sénégal au Burkina Faso.
Donc ils sont bien déterminés. C'est ça? Hein? Ils sont déterminés?
Ils sont déterminés. Et c'est pour cela que je dis que pourvu que ça dure, ça puisse prospérer, puisqu'ils ne seront pas éternellement là, ils vont organiser des élections et peut-être les civils vont revenir pour reprendre le pouvoir. Aujourd'hui, on a la jeunesse qui est là derrière les trois présidents au Sénégal et au Niger et au Mali. Et au Burkina, donc on a la jeunesse qui est derrière ces messieurs-là, qui les soutient. Mais aujourd'hui, est-ce que après, qu'est-ce qui va se passer? Puisque le Burkinabé dit et le Malien dit, désormais nous sommes décidés, nous allons faire des coopérations gagnant-gagnant. Et ils ont cité la Chine, avec la Chine, la Russie et la Corée. Ils n'ont pas cité la France. Donc, ils veulent se détacher du colonialisme. Et c'est avec les Chinois et les Russes qu'ils veulent travailler beaucoup plus. Donc, et j'ai dit, est-ce que cette coopération-là, ce n'est pas une nouvelle colonisation des autres pays? Parce que quand vous voyez, la Russie est en train de prendre, refaire une colonisation que nous, recolonisation que, qui est voilée, qu'on ne voit pas totalement comme ça. Donc on attend de voir.
Mais ils vous diront que ce n'est pas une colonisation à la française.
Oui, ce n'est pas une colonisation. C'est ce que même les trois pays disent que ce n'est pas une colonisation à la française. La colonisation à la française, on sait comment ça s'est passé. Aujourd'hui, c'est quand ils viennent, les Russes viennent s'implanter, c'est que il y a un partage de ressources.
Et ils parlent même de partenariat.
De partenariat gagnant-gagnant.
Tout à fait.
Ouais, c'est ça qu'ils ont décidé. Maintenant, c'est pour ça que les Burkinabés, les Nigériens disent, et les Maliens, aujourd'hui, nous voulons un partenariat gagnant-gagnant et non un partenariat qui exploite sans rien donner. Et c'est pour cela que quand on a attaqué, quand on a dit que IB a fui, elle a dit un militaire ne fuit pas. Un militaire est là, il n'a nulle part à aller, il va combattre pour son pays. Et elle allait dire ça au niveau de la télévision nationale Burkinabé. Donc aujourd'hui, on attend de voir. Et ils sont déterminés, ils sont engagés. Et par après, il y aura des élections qui vont être organisées.
Tout à fait.
Ceux qui vont venir là, est-ce qu'ils vont maintenir le cap? C'est la question.
C'est la question, justement. Merci beaucoup, Abbas. Merci, Sylvestre, pour ce débat. Je sais que les auditeurs, nos amis auditeurs et auditrices sont également à l'écoute et ils veulent forcément alors rentrer et participer à ce débat. Et donc, nous allons leur donner aussi l'opportunité de participer à ce débat. Et c'est sur le 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75, bien avant. Nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs.
Fine, légère, équilibrée et rafraîchissante, Warsteiner, une bière internationale, prestigieuse allemande, brassée depuis 1753 par la 9e génération de la même famille, est enfin au Togo, sous licence par la Société Nouvelle de Boissons SNB. Warsteiner, bière blonde 100% malt, brassée selon la loi de la pureté allemande. Warsteiner, la vie dorée, Sikavi, format 50 centilitres à 650 francs CFA. Warsteiner, la vie dorée.
Yeah, chérie, tout à l'heure là je vais t'appeler, puis le foot jouer déjà prêt.
Mais voilà, tu n'es pas à la mode.
La réduction de 100 000 francs CFA sur tous les foufous mix se poursuit. Du 24 juin au 6 juillet 2024, prépayez votre foufou mix et économisez 100 000 francs CFA pour une livraison au mois d'octobre, le mois du consommé local. Facilitez-vous la vie avec Foufou Mix, une entreprise citoyenne à votre service. Info line 90 78 72 30. 90 78 72 30 ou 97 55 28 28 97 55 28 28.
Entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com.
Tu sais quoi, Elisabeth? Ma vie a changé depuis que j'ai la fibre Canal Box.
Miaou? Comment ça?
Canal Box est une connexion internet stable et très rapide qui me permet de télécharger et d'envoyer à la vitesse de la lumière et en quelques secondes les audios, vidéos et divers documents, même les plus lourds. Mieux encore, je paye une seule fois mon abonnement par mois et toute ma famille et moi accédons à internet en illimité. Aux MR, sans aucune limite de méga, hein, HM4 et 30 jours sur 30.
Pour toute ta famille en même temps et illimité, ça doit être économique, Canal Box. Hein?
Très économique même. D'ailleurs, en ce moment, l'installation et la box fibre Canal Box sont gratuites.
Gratuites? Comment, ma?
Tu as très bien entendu. L'installation et la box fibre sont actuellement à 0 francs.
Je veux avoir ma Canal Box.
Appelle vite Canal Box au 88 66 ou fonce dans la boutique la plus proche pour en profiter. Canal Box. Vive l'internet illimité.
Haut de gamme de Canal Boutique, votre magasin de prêt-à-porter où vous trouverez tout article vestimentaire homme. Pour le renouvellement de votre garde-robe, pour votre mariage ou autre cérémonie, vous trouverez ce qu'il vous faut à haut de gamme de Canal Boutique. Costume, 2 ou 3 pièces. Saharienne, blazer, pantalon chemise, ceinture, chemise et chaussures, le tout de qualité supérieure. À haut de gamme de Canal Boutique, passez les commandes des articles pas disponibles en magasin. À haut de gamme de Canal Boutique, vous trouverez des parfums de grande qualité. Vous aimez du beau? Alors faites-y un tour. À Canal Boutique, vous y trouverez de la qualité. Canal Boutique, boulevard du 13 janvier, en face du feu tricolore et du terrain nu de la Lonato. Contact 90 77 97 07.
93.5.
Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse. Maintenant, nous vous donnons la parole. Vous pouvez vous exprimer et c'est à travers les 22, 21, 33, 74, 91, 36, 63, 75. Michel, insta déjà un auditeur. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, Papa Sordiné.
Bonjour. Oui, à ton place, les radars sur les grands carrefours, là, c'est bon.
beaucoup de feux rouges. Par exemple, le feu rouge au niveau de. Sur le boulevard circulaire, au niveau d'Atikodi, là, quand on travaille pas, même le boulevard, c'est. Décompte. Aussi, même, c'est marché de. D'Amoukoupé. Tout cela, ça ne fonctionne pas, même au point de vue, ça. Donc, une fois, essayer de voir le fonctionnement de cette route. Le radar aussi, c'est très bon. Merci, bonne journée.
Merci beaucoup, Papa Sodiné, pour votre intervention. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, Madame Issy.
Vous avez parlé de radar, c'est ça?
Oui.
Oh, vraiment, pourquoi on fait ça? Radar de Nyaya, est-ce que ce qui nous arrive là, c'est une histoire de placer des radars pour nous soutirer encore dessus? On parle de ça? Pardon, pourquoi on nous fait ça? On a parlé d'un mandat de. Vous avez vu, la non-alternance que ça fait? Ça ruine un pays et son peuple et sa population. Vous avez vu ça? Rien n'est fait dans ce pays. On n'a pas d'hôpital, on n'a pas d'école, on n'a rien. Maintenant, on vient placer des choses, on crée des taxes qui vont nous plomber davantage. Pourquoi? Et l'État nous paye quoi là? Il va nous payer quoi dedans? Il n'y a que nous qui payons toute la vie. On a droit aux allocations conséquentes, 200 000 au moins. On a droit à plein de choses qu'on ne nous donne pas. Maintenant, on doit nous rançonner à vie. Pardon. Et puis, écoutez ça. La voix Koresewa Sarakawa, la voix Benedi, la voix haute tension, cimetière Benedi, tout ça là, et toutes les voix de la République. Moi, je vis à Minamadou. C'est grave. J'ai même cassé ma voiture il y a un moment. Il y a un moment. Attendez. Tout est laissé en jachère. Maintenant, c'est avec cet argent-là qu'ils vont nous faire ces routes-là. Pardon. Qu'on arrête, quoi.
D'accord. Merci beaucoup, Madame Essie, pour votre intervention. Allô? Allô, bonjour. Allô? 22-21-33-114. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour. Allô, je vous écoute, allô. Bonjour. Décidément, allô, bonjour. Il n'a pas de retour. Oui, comment vous allez?
Allô, bonjour.
Votre... Allô? Oui, bonjour, votre nom c'est?
Bonjour, c'est Monsieur Vincent.
Monsieur?
Vincent.
Vincent, ok, vous nous appelez de quel quartier?
De Bougan.
Bougan, allez-y Vincent.
Et moi, je veux parler seulement de la circulation là. Bon, ils ont prévu, ou bien ils ont l'intention de placer les radars sur les routes. Sur les nationales, surtout la nationale numéro 2 là. Ils ont placé les panneaux des Dodanes là. Vous voyez comment les voitures circulent sur la voie là. Ils cognent les gens à tout moment, à toute vitesse. Vaut mieux, au lieu de placer les radars, vaut mieux de placer les Dodanes d'abord. Là. Comme il y a déjà les panneaux là. Les panneaux là, ça c'est quoi? Hein? Je ne comprends pas ce que nos gouvernants font là. Je ne sais pas quel cas ils font là. Ils ont placé les panneaux Dodanes. Arrivé à tout carrefour, là, tu vas voir les panneaux Doudan. Là, il y a, sur la route, il n'y a pas la Doudan. Comment elle peut fonctionner comme ça? Ok, à tout à l'heure.
Oui, allez, merci pour votre intervention. 22-21-33-114. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va.
Votre nom?
C'est Ali.
Ali.
Je tiens à vous dire ceci. Votre câble sur lequel on nous insère, votre câble mixeur a des problèmes sérieusement. Ça nous fait que grésiller. Donc, le technicien doit faire un effort. C'est pourquoi vous ne recevez pas. On a des retours, mais il y a problème.
D'accord, merci beaucoup. Je pense quand même qu'on va s'y atteler.
Dans le podcasting, quand on réécoute l'émission, nous, en direct, on ne nous écoute pas. Donc, concernant les sécurités routières, les soldats qui sont sur la route doivent toujours avoir leur nom sur leur habit, mais on ne voit plus ça. Et, sincèrement, ils nous raquettent de peu. Et on a qu'à leur interdire les raquettes et le Togo va aller bien, surtout les respects de la route. Merci.
Merci beaucoup, Ali, pour votre intervention. 22-21-33-114-91-36-63-75. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va, c'est Yannick.
Yannick, vous nous appelez de quel quartier?
À Gouet,
allez-y.
Je veux intervenir concernant les rapports. Sur la voie de. Nous avons les radars, mais nous n'avons pas les panneaux qu'on va respecter. n'y a pas les panneaux. Pour confirmer, il n'y a pas les fiscalisations. Dans les radars, on ne sait pas quelle vitesse il faut rouler, à quelle vitesse. À l'extérieur, tu peux aller dans ce point de vitesse 80, 50, 100, mais moi, on ne sait pas comment on va rouler autrement. Donc, quand nous mettons les panneaux, ça va de commun. Merci.
D'accord, merci beaucoup. 22, 21, 33, 114. 91, 36, 63, 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce mercredi 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô?
Oui,
bonjour, mon directeur.
Bonjour, papa Sibiti.
Bonjour, tous les plateaux.
J'espère que vous allez bien.
Je vais bien.
Dieu merci.
Et vous savez, l'État a tout fait pour arranger les routes. C'est maintenant qu'il n'y a plus d'accidents. Quand vous n'étiez pas né, il y avait ce qu'on appelait des barrières. À ce côté, barrière, c'est un nom, parce que quand il pleut, on ferme. Vous n'avez plus le droit de venir du nord, sinon c'est glissant, vous allez faire des accidents. Aujourd'hui, vous voyez, tout est amélioré. C'est aujourd'hui les accidents. Votre collègue vient de dire, il ne sait pas où il y a ses problèmes. Si les Togolais ont de vie, et après la mort, ils iront prendre une autre. Il faut tout faire. Les feux rouges. Au moment où il y a beaucoup d'accidents, c'est en ce moment qu'il n'y a pas de feux rouges. Pour la présidente, les conseillers qu'on a nommés, ils sont là pour quoi faire? C'est pour dire au président que ceci ne va pas. Ceci, les fonctionnaires, les journalistes, les commerçants, et qu'ils lui donnent des conseils, les retraités, pour que le président à nous. C'est leur travail. Et à quelquefois, je dis que non, le président n'a pas le droit de nommer lui-même. Il ne sait pas ce qu'il faut faire. Et on doit l'applaudir. Il est là. Ce qu'il fait pour qu'on l'applaudisse, c'est tout ce que je peux dire. Est-ce qu'ils écoutent ce que vous dites, nous disons? Pourquoi ils ne viennent pas? Nous avons besoin des canibaux. L'inondation, partout.
Merci beaucoup, papa Sibiti, pour votre intervention. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va très bien.
C'est monsieur Gado?
Oui, lui-même.
Voilà, allez-y.
Là-bas, vous échappe, non?
Justement, allez-y.
Bon, vous savez, moi, ce que je veux dire, les policiers n'arrêtent plus les gens qui brûlent le feu. C'est très dangereux. Parce qu'il y a le rouge, il ne s'arrête pas. Et quand ça, tu veux traverser, mais je ne sais pas s'il n'y a pas beaucoup d'effectifs. Au moins, pour ceux qui brûlent le feu, là, on doit les arrêter. Bon, pour le cas que moi, tant pis, mais ceux qui Dieu le peut, là, transmettre pour voir le ministre de la Sécurité. Les policiers n'arrivent pas à les arrêter. Merci, bonne journée.
Merci beaucoup, M. Gado. 22, 21, 33, 74, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce mercredi. 22, 21, 33, 114. 91, 36, 63, 75. Les deux numéros pour participer à l'émission de ce mercredi. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, M. Pascal.
S'il vous plaît, le nom, c'est
Kossi de Sagbado.
Kossi de Sagbado. Allez-y, M. Kossi.
Je remercie le plateau. Et je voudrais parler maintenant en première position de la DSR. La DSR qui se met devant le feu rouge, c'est-à-dire jusqu'à quelques mètres du feu rouge, qui fait les raquettes et contrôle les pièces des raquettes. Il faut que le ministre de la Sécurité veille sur ça. Plusieurs fois, moi et la DSR, on s'est querellé pour ça. Ils se mettent à quelques mètres du feu rouge et ils demandent aux gens de tirer pour qu'ils contrôlent les pièces et pour le raqueter. Quelle est cette façon-là de travailler? On ne leur donne pas à quelle position il va s'intéresser avec le fait le contrôle des pièces. C'est mon premier point. Le deuxième point, je crois que plusieurs l'ont touché avant qu'on commence à placer les radars et tout ça là. L'état de la route. Le papa, c'est qui vient de hausser le ton. Ça ne lui arrive pas souvent. C'est un homme âgé. Quand il a hausser le ton, c'est que ça ne va pas. Vous comprenez? Donc, l'État n'a qu'à veiller à ce que nos routes soient bien construites. Ceux qui ne construisent pas bien les routes, qu'on les prenne et qu'on les enferme. Merci et bonne émission.
Merci beaucoup, M. Kossi, depuis Sagbado. 22, 21, 33, 114. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, Pascal.
Oui, s'il vous plaît, le nom c'est?
Je suis Yawa, j'appelle depuis Agoué.
Madame Yawa, vous nous appelez depuis Agoué.
Oui.
Allez-y.
Mais écoutez, finalement, on va devenir pauvre dans ce pays. On crée des taxes tous les jours, les salaires sont intacts. Quand il pleut, tu descends du goudron, tu ne peux même pas rentrer chez toi. On ne regarde pas ça. Quand tu prends la route Kégué Diablé, à 4 ou 5 heures du matin, la DSL est là pour encaisser les taximans. Les pauvres taximans qui sortent de la maison, ils n'ont rien fait comme travail. La DSL est déjà là tôt le matin. On ne voit pas ça. Mais c'est bien, on place les radars, on est d'accord, c'est pour la sécurité du citoyen. Mais qu'ils pensent aussi à nous. Qu'ils pensent aussi à nous. Regardez, nous sommes en saison de pluie. L'assainissement, c'est zéro. On ne regarde pas ça. On crée des tasses tous les jours. C'est pour nuire aux citoyens. On va où, là? Je ne sais pas si le président de la République suit cette émission, hein. Mais il faut qu'il ait pitié de nous, les citoyens. Dans la sous-région, nous sommes les plus pauvres. Mais c'est celui qui a plus de tasses. Merci.
Merci beaucoup, Madame Yawa, pour votre intervention. 22 21 3314 91 36 63 75. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir deux ou peut-être un. Allô?
S'il te plaît, une minute.
Oui,
voilà, où t'en es avec l'histoire des casques là, qu'on nous a forcés à acheter. Même nous qui n'avons pas de moto, où t'en es avec ça? Normalement, quand tu achètes une moto, on te donne deux casques, je crois. Hein, ça vient comme ça de la Chine. On a gueulé fatigué, qu'on demande à la Chine de nous envoyer des casques gratuits, mais non, les gens ne nous ont pas entendu. Ils ont plumé encore les pauvres populations pour leur soutirer des sous pour ce casque-là. Et puis, voilà. Et les flics, on voit les flics en pleine nuit au feu rouge. Ils sont à 10 ou 12, comme ça, à vous arrêter, à vous rançonner. En pleine nuit. Et puis, il y en a à moto. Ils sont deux armés et puis ça poursuit les gens pour les rançonner. Il y a un coin là. Et Gagoto vers Saint-Joseph là-bas. Quand vous passez là-bas la nuit, il a peine. Hein? Les flics coupent la route là-bas et puis ça bloque les motocyclistes. Qu'on arrête ça.
Merci beaucoup, Madame Issy, pour votre intervention. Michel, nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier, je pense bien. Donc, 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. Nous attendons notre dernier auditeur. Allô?
Allô, bonjour, monsieur Patrick.
Bonjour, comment vous allez?
Bonjour.
D'accord, votre nom c'est?
Bonjour, à vous aussi.
D'accord. Oui, votre nom.
Parce que moi, je voulais parler comme ça, les radars. Là.
Oui, s'il vous plaît, votre nom, c'est.
Bon, c'est une bonne idée. Mais j'aimerais demander au gouvernement s'il peut préparer les petits écoles qui ne travaillent pas, ça serait mieux aussi, quoi. Et là, comme ça, la population ne va plus réagir négativement.
Si.
Donc,
sincèrement, je ne vous ai pas écouté. La proposition que vous faites au gouvernement, c'est.
Oui. Concernant les radars, là.
Oui.
Moi, je suis d'accord avec le gouvernement. Mais j'aimerais que les personnes qui ne travaillent pas, ils réparent ça, quoi.
Ah, d'accord, ok, je vois.
Et oui, la faute, bien sûr. Donc, j'aimerais donner un faveur de faire ça aussi. Comme ça, la population n'a pu réagir négativement.
D'accord. Merci beaucoup. Votre nom, c'est... Décidément, il est parti. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous avez appelés. Nous revenons en plateau, chers confrères. Abbas, on a écouté les uns et les autres. Pour une première fois, nous avons parlé politique, mais les gens ne se sont pas intéressés tellement à la politique, mais ils se sont intéressés plus alors à la question de la sécurité routière. Ouais. Ça veut dire que ça leur tient à cœur.
Ouais, la sécurité routière tient à cœur à la population, parce qu'on ne peut pas sortir à tout moment et compter les morts suite à des accidents. Lorsqu'on dit que la route tue, je ne pense pas que ce soit la route qui tue, c'est nous qui nous tuons sur la route, parce que ça, par rapport à nos comportements, et à chaque fois on fait le coup de compte des décès dus à ces accidents-là. Et ben, ça doit interpeller les uns et les autres. Quand tu sors de ta maison, il faut prier Dieu que je sors, qu'il me ramène en bon état à la maison, revoir ma famille. Et lorsqu'on parle des radars, les radars qu'on a placés, ce n'est pas pour extorquer des sous à quelqu'un. Parce que j'ai entendu Maman Alternance parler de...
Vous voulez parler de Madame Essie.
Madame Essie, parler qu'on a encore mis les radars pour extorquer de l'argent aux gens, non, ce n'est pas ça. C'est pour notre sécurité. La sécurité routière nous importe beaucoup. Elle dit qu'elle est en voiture. Si elle est en voiture, elle doit savoir qu'on ne peut pas violer un feu rouge. Si elle est en voiture, elle doit savoir qu'il y a une limitation de vitesse qu'il faut respecter. Donc, ce n'est pas... Lorsque vous respectez tout ça, là, le code de la route et autres, on ne va pas venir vous arrêter que vous allez payer les amendes. Si vous êtes en contravention, vous allez subir cette contravention-là, vous allez payer les amendes. Mais dire qu'on va vous extorquer de l'argent parce qu'on a mis les radars, en place les radars n'est pas mis pour quelqu'un, mais pour notre sécurité. En principe, si nous-mêmes, on était au moins prudents, nous-mêmes, on se comportait bien, on n'a pas besoin de ces radars-là pour que on puisse circuler sans accident. J'ai dit souvent, la prudence sur nos routes, la prudence sur nos routes. Il faut qu'on soit trop beaucoup prudent. Toujours la prudence.
Sylvestre.
Finalement, c'est le journaliste de la prudence.
Tout à fait.
Non, je crois qu'il y a Dessie, comment vous l'appelez, Maman Alternance.
Maman Alternance.
Je crois que c'est Dessie qui a cité même un quartier de Lomé où elle dit qu'il y a souvent des policiers qui raquettent les gens. Je crois qu'elle a donné le nom et donc...
Donc
il revient au premier responsable donc, de la sécurité intérieure de prendre des dispositions.
Oui, c'est la nuit. Elle a dit souvent
la nuit. Donc je crois qu'elle a tellement donné d'indices pour que les responsables...
Et de précision.
Et de précision. Hein, pour que les responsables puissent du moins s'investiguer et voir ce qu'elle dit est avéré. Donc punir les agents. Maintenant, pour punir également les agents, ceux qui raquettent, il faudrait essayer qu'on connaisse leur nom. Je crois qu'entre-temps, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur, je crois le général Diak, qui avait initié à ce que les policiers...
De la sécurité, vous voulez dire.
Le ministre de la Sécurité, voilà. Qui avait initié à ce que les forces de sécurité, les policiers, portent donc leur nom et puis leur... numéro le grade d'immatriculation. Voilà. Mais aujourd'hui, la plupart des policiers ne portent pas cela. Mais pour les identifier, normalement, c'est à partir de ces éléments-là. Parce que l'actuel ministre a lancé donc un code vert, le 10-14. Si un policier vous raquette, donc d'appeler gratuitement le 10-14 pour signaler donc le fait. Maintenant, pour le faire, il faut d'abord connaître le policier qui est en face de vous. Si la personne n'a pas porté son nom, s'il n'y a pas son numéro matricule, comment est-ce que vous pouvez l'identifier et donc porter loin l'information? Donc, il faudrait qu'on puisse leur exiger maintenant de porter leur nom sur les treillis et donc et leur numéro d'immatriculation. Voilà. Donc, comme ça, on peut véritablement les identifier. Maintenant, en ce qui concerne donc, les conseils donc, du président, ils sont nombreux. Ben, Papa Sibiti l'a dit, ils sont nombreux. Mais s'ils sont là et que ça ne marche pas, à un moment donné, moi, je crois qu'il faudrait qu'un beau matin, le président puisse les renvoyer tous.
Et qu'on change de conseil.
Qu'on change de conseil, parce que s'ils sont là depuis des années que ça ne marche pas, même le chef de l'État lui-même, il a fait le constat que c'est une minorité qui est capable de la richesse nationale. Alors, si tous ces conseillers sont là et que c'est une minorité qui le fait, ça veut dire qu'ils ne font pas bien leur boulot. Celui qui est chargé donc d'informer le président que le pays est inondé. Lui, depuis là, il n'a pas fait son rapport au président pour qu'on puisse prendre des dispositions. Celui qui est chargé donc de la presse, il ne comprend pas le cri d'alarme des médias. Hein, quand il faut revoir donc l'aide et tout ça face au de la presse et tout ça, parce qu'il faut payer des micros, il faut informer et tout ça. Il y a tellement donc de décrets qu'on doit prendre ne serait-ce pour soulager un peu les peines donc des médias et tout cela. Celui qui est là, qui est chargé de la communication des médias, il ne fait pas le rapport au président pour qu'on puisse agir. Donc tout cela, si un bon matin, il n'a qu'à les renvoyer tous. S'il veut, moi, je peux peut-être l'assister, qu'on puisse prendre de bons conseils.
D'accord. Je pense que, voilà, le message est passé. Sylvestre, je reste avec vous pour votre note de fin d'émission.
Oui, ma note de fin, je reviens sur, en fait, le décès en cascade donc à la Mecque. On annonce plus de 1300 pèlerins qui sont décédés donc au niveau donc de la mer pour le Hajj 2023. Au niveau du Sénégal, on a pris un certain nombre de dispositions parce qu'il y a beaucoup qui disent que en fait c'est la forte chaleur qui a créé donc qui a coqué à la cause de ses décès. Mais au Sénégal, il n'y a pas donc des cas Covid constatés. Si donc, les pèlerins qui sont de retour, hein, après le contrôle sanitaire, on a détecté des cas Covid parmi ces pèlerins-là. Donc, on a pris des dispositions au niveau donc, du Sénégal. Déjà, au niveau de l'aéroport, il y a des dispositions qui ont été prises, ne serait-ce pour éviter à ce que le virus ne puisse se propager et encore embraser le pays. Mais ici, rien. Silence radio. Or, nous avons aussi appris qu'il y a des Togolais aussi qui font partie des victimes à la Mecque. Donc, on devait également prendre un certain nombre de dispositions ici. Mais silence radio depuis là.
Et la note, c'est maintenant, c'est...
Non, deux, même là, je suis même très, très gentil. D'accord. Deux au gouvernement.
D'accord, merci.
Au gouvernement Abbas, qui évacue les affaires courantes.
D'accord. Abbas, votre note...
Je n'ai pas encore eu de note à donner à quelqu'un.
D'accord. Merci beaucoup, Abbas, d'être passé dans cette émission, Sylvestre. Merci pour vos diverses contributions à cette émission. Ça enrichit, bien sûr, cette émission. Vous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés aussi, vos contributions ont enrichi cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Akoucha a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Loussou. Je vous retrouve demain, jeudi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. Portez-vous bien. Au revoir.